Chromosome X, la nouvelle émission LGBT sur Vibration Gay Radio.
Bienvenue à tous sur Vibration Gay Radio, Chromosome X à nouveau enregistré ici au local d'Alpaguet. Comme chaque mois, nous sommes avec toute notre fidèle équipe, notamment avec Paul. Salut Paul.
Bonsoir.
Comment ça va Paul?
Très bien et toi?
Mais oui, on est en forme pour cette émission que l'on va passer ensemble durant deux heures aussi avec Sam. Salut Sam.
Bonsoir.
Ça va,
oui,
Sam?
Merci. Ouais, je m'attendais pas à moi.
Non, je suis en train de me dire que j'ai fait faux. J'ai démarré faux parce que j'aurais dû dire.
Alors tant qu'à faire, autant y aller jusqu'au
voilà,
bout.
Voilà, donc je me suis dit, bon, je vais faire le bonjour à Fanny en dernier. Salut Fanny.
Le meilleur pour la fin. Salut.
Mais je te vois pas, t'es toute cachée en fait pour
mais
moi.
Mais oui, mais écoute, c'est salut. Toi qui es derrière moi aussi.
C'est une configuration assez spéciale, mais c'est ouais. Vrai que je m'occupe des petits boutons aussi. Dans cette émission Chromosome X, pendant deux heures, nous allons faire une spéciale transsexualité. Nous sommes avec Isabelle qui est notre invitée. Donc, on va faire le tour de la transsexualité tout à l'heure, un grand sujet. En préparant l'émission, j'ai eu l'impression qu'il fallait peut-être en faire peut-être une dizaine pour couvrir tout le sujet. C'est vrai que c'est très large. Donc on va en parler tout à l'heure. On aura aussi, comme d'habitude, différentes choses que l'on va vous faire découvrir, notamment Paul qui a une chronique culturelle qui s'appelle
« Êtes-vous queer ?»
Voilà, c'est le nouveau nom de cette chronique culturelle.
Je suis à fond, quoi.
T'es à fond, t'es au taquet.
Et donc tu vas nous parler tout à l'heure de quelqu'un qui aime les petits chats.
Oui, je vais vous parler de Queen Mimosa. Ouais.
C'est mignon.
Oui.
C'est adorable, c'est un artiste qui est en plus de ça vraiment sympa, on vous le conseille. Belle découverte. Sinon, rendez-vous aussi eh bien comme d'habitude avec notre partie agenda. Là, il y a des choses qui se passent notamment du côté d'Alpaguet.
Oui, ce sera le 1er avril, il y a une soirée de soutien qui est organisée.
Voilà.
Avec une grande artiste britannique qui fait le déplacement spécialement pour venir soutenir l'association.
C'est pas un gag, hein.
Et c'est pas un gag, c'est le 1er avril, mais non,
c'est vrai de vrai. C'est vrai de vrai. Donc ça se passe donc tout à l'heure dans cette émission. Rendez-vous aussi avec notre chronique où Fanny s'est chargée d'aller rencontrer des hétéros qui nous parlent homosexualité.
C'est vrai.
Voilà.
C'était
donc,
sympa.
Ouais, à chaque fois, tu nous trouves tout le temps des gens qui sont assez sympas. Il faudra
je
quand même
trouve
nous trouver.
Des petits hétéros de sous les fagots, là, c'est tip top.
Ok, donc on découvrira ça au fil de cette émission. D'ici là aussi, un petit peu de musique, bien évidemment, comme d'habitude. Dans cette émission Vibration Gay Radio, Chromosome X, avec du public, hein. Vous pouvez chaque mois venir aussi nous rendre visite ici à Alpaguet. Donc, vous pouvez avoir notamment les dates sur le site internet de Vibration Gay Radio, vibrationgayradio.ch. Voici Coldplay.
How long before you decide, but before I know what it Vibration Gay Radio. La radio 100% friendly, c'est Vibration Gay Radio. Vibration.
Visit my world. Come here and visit my world. Did history shine in stars? Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. Dance with me one more time. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Come here and visit my world. History, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. One more time.
Vibration Gay Radio, c'était Yal à l'instant. Nous sommes dans cette émission Chromosome X, qui est une spéciale transsexualité avec Sam, qui va s'occuper de notre invitée, qui est Isabelle. Isabelle, qui nous a rejoint.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Ça va très bien. Bah oui. Dans ce salon cosy d'Alpagué pour cette émission Chromosome X.
Pour cette quatrième émission de Chromosome X, nous avons la chance d'avoir le témoignage, et pas des moindres, de Isabelle. On va retracer son parcours, sa vie tout au long de cette première partie d'émission, en passant par son enfance, par malgré tout le regard des gens, les jugements, l'entourage, jusqu'à aujourd'hui. Elle nous partagera le témoignage de sa transformation, qui n'a pas été toujours facile dans cette société où le changement de sexe dérange encore beaucoup. Donc on va procéder un petit peu chronologiquement par rapport à ta vie. Oui. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ton enfance?
Alors, mon enfance, parlons déjà d'avant ma naissance, puisqu'il y a un élément important qui a été découvert seulement il y a quelques années, c'est que des professeurs en néonatologie de Paris ont découvert que la mère, par le cordon ombilical, elle nourrit le fœtus, mais elle le nourrit aussi avec il y a un échange hormonal qui se passe, et cet échange hormonal est influencé par les pensées profondes, les pensées obsessionnelles de la mère. Alors évidemment, c'est pas l'obsession de dire « j'ai oublié d'acheter des patates », mais le genre d'obsession, c'est « oh, j'espère que ce sera une fille » ou bien « j'espère que ce sera un garçon » d'une manière vraiment viscérale. Et ça donne une certaine influence au tissu hormonal que reçoit le fœtus. Alors, je précise bien que ça n'est pas la cause d'une transformation, d'un trouble de l'identité de genre.
Mais ça peut aider.
Ça peut aider, ça peut expliquer certaines choses, mais il faut savoir qu'il y a des quantités d'autres hommes, c'est la même chose pour les femmes qui deviennent des hommes, qui ont eu cette problématique avec leur mère qui voulait un enfant d'un autre sexe. Il y a eu le rejet de ce garçon, en fait. Il y a eu l'absence du père. Il y a eu tout un tas d'éléments que d'autres ont aussi, mais qui n'aboutissent pas sur un trouble. Donc, je pense qu'il y a un problème au niveau génétique qu'on ne connaît encore pas aujourd'hui.
Mmh. Alors justement, à partir de là, ton enfance, comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu?
Alors, mon enfance, il y a un élément assez troublant que j'ai découvert bien des années plus tard dans mon album de photos de l'enfance. J'ai découvert que, alors que j'avais 2 ans et 7 mois, ma mère m'a déguisé en fille. Et pour expliquer l'importance de ça, l'importance de son trouble à elle, d'avoir un garçon au lieu d'une fille, c'est que mes sœurs n'étaient pas nées. Donc, elle m'a laissé pousser les cheveux, elle m'a acheté un petit sac à main, elle a confectionné une robe, elle m'a trouvé des bijoux, elle m'a prise en photo en fille. Mmh. Donc ça donne déjà un certain éclairage sur mon enfance. Par la suite, j'ai toujours eu le sentiment d'être un peu différent, mais il n'y avait rien de précis. C'est que bien plus tard que j'ai compris, parce que j'ai commencé à me travestir seulement à 14 ans, et sans savoir que c'était un trouble de l'identité de genre.
Mais tu ressentais déjà l'envie d'être une fille?
Je ressentais quelque chose qui me différenciait des autres garçons. Un exemple, à l'école enfantine, j'avais plus envie de jouer avec les filles pour aider à sauter à la corde, pour tenir la corde en tournant, plutôt que jouer au foot, aux jeux violents des garçons. Mmh. Donc là, c'est des petits éléments qui sont venus éclairer mon parcours, mais bien plus tard. Sur le moment, non, je n'en avais pas conscience.
Et après, il y a eu les passages des internats.
Oui.
Où tu as passé plusieurs fois.
Oui, effectivement.
Comment tu as pu vivre ce principe d'être, entre guillemets, interné? Oui. Déjà enfant et après adolescent.
Oui, loin de la famille.
Alors, un rejet très fort, puisque le premier internat, c'était à Saint-Maurice. Et je me souviens d'une balade du dimanche en voiture. Mes parents s'étaient arrêtés devant l'entrée principale du collège de Saint-Maurice. Et puis, tout d'un coup, ma mère se tourne. J'étais assis à l'arrière. Et elle me dit, tu vois, si t'es pas sage, c'est là qu'on va te mettre. Donc, je n'y étais pas encore, mais je ressentais déjà cette punition. Et quand ils ont décidé de me mettre à l'internat, c'était le 17 janvier 1956. Donc, même pas en début d'année, pas en début du deuxième trimestre, mais alors que le deuxième trimestre avait déjà commencé. Ouais. Donc les copains, ça ils sont durs. Hein. Pendant une année et demie, on m'a traité de nouveau. C'était mon surnom, le nouveau. Voilà. Donc encore une fois, une mise à l'écart de la famille et une mise à l'écart par les copains.
Ouais.
Donc forcément, je me sentais encore plus rejeté, encore plus différent que d'autres.
Et puis là, le ressenti d'être une fille se faisait déjà sentir à cette époque-là?
Non, pas du tout. Par contre, au deuxième internat, qui était entre 16 et 19 ans, j'étais à l'école de commerce à Sierre, évidemment, j'étais le plus grand de la classe, j'étais un peu baraqué quand même. Et puis, un beau jour, les copains, ils me disent, ils me surnommaient le faux dur. Je me dis, mais pourquoi vous m'appelez le faux dur? Ils me disent, voilà, j'étais assise alors là, hein. Ils me disent, parce que sous ta carapace de dur, on a découvert que tu étais très sensible. Donc, ils avaient trouvé quelque chose au fond de moi, alors que moi-même, j'en avais pas vraiment conscience.
Les autres l'avaient senti avant même que toi, tu le ressentes.
Oui, ouais. C'est ça. Et ça a été un élément, d'une manière inconsciente, qui a construit ma personnalité. Parce que toute ma vie d'homme, j'étais un macho introverti. Ça veut dire que j'avais un masque d'homme. Je ne souriais pas, je parlais très peu, et puis je voulais montrer que j'étais un dur. Alors qu'au fond de moi, ce n'était pas du tout ça.
Ouais, justement, c'est encore plus flagrant de montrer aux gens que tu es un dur, alors que c'est pas le cas intérieurement.
Oui, oui. Ouais,
c'est encore pire. En fait.
Oui.
Ouais. Et ça va sentir aussi par la suite. Ça veut dire qu'ensuite, tu vas te marier aussi?
Oui, j'ai eu deux épouses. La première a duré 7 ans, ouais. J'ai eu 2 filles. La deuxième a duré 38 ans, et j'ai un fils adoptif dont j'ai la garde aujourd'hui. tout se passe bien, je dois dire. Depuis ma transformation, c'est vraiment une nouvelle vie, parce que je suis devenu extraverti, j'aime le contact.
Ouais.
Et surtout, j'ai fait la paix avec les hommes. Avant, j'avais un très très mauvais contact avec les hommes, et ça m'a joué des très mauvais tours au niveau professionnel.
Mm-hmm. Et là aussi, donc, au niveau de la famille, tu étais donc cet homme dur, macho, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Même avec donc au sein même de la famille avec ta femme, tes enfants.
Ah, j'étais un mari autoritaire.
Et ensuite il faut dire que il y a une partie, il y a un moment où ben tout ça revient quand même. Il y a ce côté macho, mais il y a quand même cette différence. Enfin, tu te sens différent quand même, et il y a ces périodes de travestissement.
Oui, alors les périodes de travestissement, ça m'a donné beaucoup de culpabilité, parce qu'évidemment, j'ai fait mes études en Valais, ma mère était valaisanne, donc il y avait une certaine sévérité, il y avait l'influence de la religion. Donc mes périodes de travestissement, ça aboutissait toujours sur des très très fortes culpabilités. J'avais le sentiment que c'était des pulsions malsaines. Et puis, petit à petit, avec l'aggravation, parce qu'on croit qu'avec la volonté, on peut arrêter, hein, je pense. J'ai essayé d'ailleurs d'arrêter, comme quand j'ai arrêté de fumer, avec la volonté. J'ai tenu 3 ans sans me travestir. Quand c'est revenu 10 fois plus fort.
c'est ça, chasser le naturel, il revient en galop, c'est un peu ça.
Absolument, oui. Il y a des choses, ça ne sert à rien de lutter, c'est en nous, c'est un état, et c'est plus fort que tout.
Ouais. C'est la même chose pour l'homosexualité. On dit avec de la volonté, on peut se soigner. Enfin, certaines personnes l'ont pensé. Hein. Ouais. On peut avec de la volonté, et ça revient toujours plus fort parce que finalement, ben voilà, c'est ancré. Ouais.
C'est ancré, c'est sa nature profonde. Ouais. Et là, on doit l'accepter, sinon on est malheureux.
Mm-hmm, exactement. Et sinon, c'était presque un combat contre toi, en fait.
Ah, c'était des luttes incroyables. Mais cette Isabelle que j'avais au fond de moi, elle prenait de plus en plus de place.
Mmh.
Donc je devais me travestir de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, et il y avait de moins en moins l'aspect sexuel.
Mmh.
Ça veut dire que c'était un bien-être absolument incroyable. Pour vous donner un exemple, mes dernières années passées à Genève, donc juste avant ma décision, je travaillais seul, j'avais un bureau. Donc j'avais mes armoires au bureau avec mes petites affaires.
Mmh.
Eh bien, 4 jours sur 5, je me mettais au travail devant mon ordinateur, j'étais perturbé, je pouvais pas travailler, je fermais ma porte à clé, je me changeais, je me maquillais, je me mettais au travail, une journée magnifique. Je pouvais travailler, j'étais bien dans ma peau. Et c'était constructif. Et puis, le soir, eh bien, il fallait me démaquiller, il fallait retrouver mon visage d'homme. Et là, il y avait des pulsions suicidaires absolument incroyables.
Ah, au moment de revenir
Au moment de revenir en homme.
Ouais.
Donc, pour expliquer que ces tensions internes entre l'homme que j'étais et l'image de mec macho que je donnais, et mon intérieur qui était en train d'exploser et de vouloir sortir, ça me donnait des tensions intérieures qui me poussaient au suicide.
Ouais. Mais ce qui est assez étonnant, ça veut dire que quand il y a donc ce moment de travestissement, c'est une sorte de libération. Et comment ça se passe, la culpabilité? C'est vraiment le moment où tu redeviens un homme, que c'est là que tu culpabilises? Ou bien pendant que tu es travesti, tu ne culpabilises pas?
Ah non, pendant que je suis habillé en femme, c'était super.
Ok.
C'est au moment de revenir qu'il y a les culpabilités.
Ok. Et quand on voit l'entourage, enfin, on doit reprendre notre vie, reprendre finalement... le moule dans lequel on est, c'est ça, hein.
Ouais, on reprend le masque.
On reprend le masque. Ouais. On doit rentrer à la maison. Ouais. D'accord.
Et là, j'ai une anecdote. Je me prenais en photo.
Mm-hmm.
Alors, quand j'étais en homme, que j'étais en famille et tout, mon ex-femme me disait, mais souris, on dirait que tu vas à un enterrement. Je souriais pas sur les photos.
Ouais.
Quand je me travestissais au bureau, que je me prenais en photo, et que ensuite sur mon ordinateur, je faisais les recadrages et tout ça. Un beau jour, je me dis, mais c'est pas vrai. J'ai fait aujourd'hui 15 photos, sur toutes, je souris.
Mm-hmm.
Donc c'était inconscient. J'avais le masque d'homme en homme, où je souriais pas, et quand j'étais en femme, j'avais un sourire naturel.
C'est vraiment finalement le faux corps, quoi.
Absolument.
C'est ça. Ouais. On ressent ça, mais ça doit être assez impressionnant de ressentir ça. De son enveloppe, c'est correspond pas à, ouais, à l'intérieur.
Ça donne des souffrances énormes. Et c'est là que c'est important pour moi de témoigner à chaque occasion.
Ouais, ouais.
Parce que si vous, moi j'ai commencé ma transformation. Enfin, j'ai pris ma décision à 60 ans. Mais j'imagine des jeunes, des adolescents qui ont ce trouble. Et dans une famille où il n'y a pas vraiment un dialogue, où ils n'osent pas en parler, ben c'est le chemin tout droit vers le suicide.
Ouais.
Et c'est des malheurs énormes. Il y a des gens qui souffrent énormément parce qu'ils ne peuvent pas exprimer, ils n'osent pas exprimer leurs sentiments profonds.
Et puis c'est ça, c'est aussi un des regrets de ton côté, c'est qu'il n'y avait pas d'accès à toutes les informations qu'il y a actuellement.
Exactement, oui.
On se sent vraiment seul.
Oui, absolument. Et pendant mes années de travestissement, évidemment, à la fin, quand, par exemple, en 1990, il y a eu le directeur d'une école professionnelle à Lausanne qui a fait la une de l'Illustré. Mm-hmm. Il y a eu un article de plusieurs pages. Et l'article était magnifique parce qu'il démontrait que cette personne, directeur d'une unité d'enseignement, avait obtenu du département de l'instruction publique la reconnaissance de son état de femme et l'avait consolidé dans son rôle alors de directrice. Donc là, ça m'avait donné une grande émotion. Puis je me suis dit, mais moi, je pourrais jamais faire ça. Parce qu'à ce moment-là, bon, maintenant, j'ai rapetissé un petit peu, mais je faisais 1m83.
Ouais.
Je me disais, mais avec la taille que j'ai, c'est impossible d'envisager un truc pareil.
Mm-hmm. Hein.
Et puis, par la suite, avec Internet, avec les forums de transsexuels, j'ai découvert qu'il y avait même des gens qui faisaient 2 mètres, qui souffraient du même trouble que moi, qui avaient fait leur transformation, qui publiaient des photos, qui étaient magnifiques. Et je me dis, malgré mon 1m83, c'est possible.
Mm-hmm. On peut juste revenir quand même sur la partie transsexualisme ou la transidentité. Ça veut dire que il y a le mot trans à l'intérieur. Ça veut dire c'est du latin trans, donc ce qui dénote quand même le passage. Et c'est donc le fait d'une personne de se sentir comme ayant une identité sexuelle opposée à son sexe de naissance. Juste comme ça, on remet vraiment la définition en place. Et puis il y a quelque chose qu'on peut aussi dire, c'est que finalement, ça n'a pas de lien avec la sexualité. Le commun des mortels, enfin la plus grande partie des personnes pensent que c'est donc directement lié à l'homosexualité, mais ce n'est pas le cas.
C'est pas le cas. Et j'ai eu une fois un échange d'emails assez sympathique avec un avocat de Genève.
Mm-hmm.
Et on a discuté gentiment. Bon, il n'y a pas eu de rencontre parce que ça jouait pas. Mais en fait, on a discuté de toute cette problématique. Et à la fin, cet avocat m'a remercié. Il m'a dit, madame, avec votre témoignage, j'ai compris que j'étais dans l'erreur totale. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'étais convaincu que la transsexualité était l'aboutissement de l'homosexualité.
Ouais.
Alors que ça n'a absolument rien à voir. Et chez les transsexuels, vous avez des hétéros, vous avez des homos, enfin, qui étaient déjà homos avant. Il y a de tout. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus aucune sexualité.
Mm-hmm.
Donc, il n'y a absolument aucun rapport.
Voilà.
C'est un état intérieur.
Voilà, on doit vraiment mettre transsexualité, c'est vraiment, finalement, le faux corps, si on va faire un raccourci, c'est le faux corps qui, enfin, ça ne correspond pas avec son intérieur, exactement. Mais ça n'a rien à voir, donc, au niveau de l'homosexualité, parce qu'en plus de ça, quand toi, tu te travestissais, tu étais marié, tu as même, donc, pu faire même ces jeux-là avec ta deuxième femme, c'est ça?
C'est exact, oui. Et je n'ai eu aucune attirance pour les hommes.
Mm-hmm.
J'ai commencé à être attiré par les hommes 3 ans après mon opération.
Mm-hmm. C'est au moment où les hormones commençaient à déployer un peu leur... C'est le côté des hormones, c'est ça, c'est les hormones qui...
Là, c'est encore une erreur.
Non, c'est une erreur.
On te voit vraiment comme une femme, peut-être.
Ouais.
C'est ça.
Non, alors le problème de cette attirance pour les hommes qui est arrivé par la suite, moi, je pensais que c'était un aboutissement du traitement hormonal.
Ok.
Et un jour, il y a une dame, une lesbienne, qui me dit, mais alors, d'après votre théorie, si je change mon traitement hormonal, est-ce que je vais devenir hétéro?
Ah ouais, ouais, ouais.
Et je me suis dit, mais ça tient pas debout.
Non, ça tient pas debout comme ça.
Ça tient pas debout. Donc j'étais complètement dans l'erreur. Mmh. Alors je pense aujourd'hui, avec ce témoignage qu'elle m'avait apporté, je pense que ce n'est pas en rapport avec le traitement hormonal, mais que c'est avec mon bien-être de femme qui commence à devenir plus épanouie et qui est ouverte aussi à l'homme.
Ouais.
Puis très certainement le regard des hommes aussi, qui a forcément changé.
Le regard des hommes a changé, mais attention, là, quand on parle des hommes, c'est un sujet très délicat.
Ouais.
Parce que les expériences que j'ai faites, pour les hommes, c'est comme si on était tombé de la cage au folle.
Mm-hmm.
Et ils nous regardent comme des objets sexuels, comme des objets d'expérimentation. Mm. Oui. Mais ça ne va pas bien loin.
Les gens lient immédiatement transsexualité à la sexualité. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui commencent à dire qu'il faut parler plutôt de transidentité, par exemple, oui. pour éviter d'avoir le mot sexuel à l'intérieur.
Absolument, ce serait plus juste.
Ce serait plus juste. Oui. On peut revenir un petit peu à ta période de travestissement, parce que il y a un point, il y a un moment qui est très significatif pour toi. C'est ta première sortie, parce qu'alors quand tu te travestissais, tu t'enfermais dans le bureau ou tu faisais ça à la maison. Mais il y a un jour où tu as dû, t'as fait ta première sortie.
Oui, ça c'était assez impressionnant. J'avais une amie virtuelle qui habitait à 300 km de chez moi. Et puis on dialoguait, on faisait des tas de trucs par email, c'était sympathique. Puis un beau jour, elle me dit, écoute, j'ai trié mes armoires, si tu veux, je te donne des habits. Ah, je dis, ouais, chouette, hein, ça me donnera une variation, une variété d'habits. Elle me dit, mais tu viens jusqu'à Vevey les chercher. Donc j'habitais Genève, elle habitait Zoug, et puis on s'est donné rendez-vous au resto-route de Vevey.
Okay.
Donc c'était le grand défi. Hein. J'étais jamais sorti avant. Alors les habits, j'avais tout. Des chaussures, j'avais trouvé des chaussures sur Internet, à ma pointure, en 43, c'est pas courant. Mais ce que j'ai trouvé, c'était des talons de 12 cm.
Excellent.
Ah mais, ouais. Alors, bon, j'étais à l'aise pour marcher parce que je les portais souvent au bureau.
Ouais.
Donc, j'avais l'habitude de marcher avec des talons, même de cette hauteur-là. Mm-hmm. Mais sortir en ville, là, j'avais un petit peu la trouille. Alors, bon, je me suis préparé, je me suis maquillé. Le premier stress, c'était de sortir de mon bureau pour descendre au parking. Hein. J'avais un bureau dans un grand immeuble commercial où je risquais de rencontrer du monde. Par chance, je rencontre personne. J'arrive dans ma voiture, je sors, j'arrive dans la rue. Ah, je me sentais déjà à l'aise d'être au volant de ma voiture. À mi-parcours, je me suis dit, il faut que je me teste parce que je sais pas comment les gens vont réagir en me voyant. Je me suis arrêté à mi-parcours pour aller aux toilettes sur un arrêt d'autoroute et il y avait quelques personnes qui étaient là, notamment des nettoyeurs. Je suis passé volontairement à côté d'eux, il n'y a pas eu la moindre réaction, puis je surveillais comme ça, pas le moindre regard malsain. Tout était normal.
Ouais, c'est le regard des autres qui est.
Ouais, ça nous fait peur au départ.
Ouais, ouais.
Hein. Après, j'arrive au resto-route de Vevey. J'entre dans le restaurant. Alors évidemment, il y a eu des regards.
Mm-hmm.
Alors j'étais un peu tendu. Hein.
Mm-hmm.
Puis j'ai très vite réalisé que les gens reprenaient leur conversation sans faire attention à moi. Donc j'ai réalisé que oui. On me regardait, mais comme on regarde n'importe quelle femme qui a une certaine allure et une certaine taille, puisque j'avais 1m83 plus les 12 cm de talons, donc il y avait quand même quelque chose qui se passait. Mais ça s'est très vite calmé, il n'y a eu aucune réaction négative.
Mm-hmm.
Donc là, je dois dire que cette première sortie m'avait donné une certaine émotion, m'avait donné envie de recommencer. Et par la suite, je sortais de temps en temps à Genève, habillé en femme.
D'accord.
Est-ce qu'il n'y a pas une petite paranoïa qui s'installe quand même du regard des gens, justement, quand tu commences à faire le pas à t'habiller en femme en sortant dans des endroits publics, voilà. Mm-hmm. Est-ce que tu ne deviens pas, en fin de compte, justement par rapport au regard des gens que tu parlais avant quand tu es arrivé dans ce restaurant à Vevey?
Savoir s'il détecte
ou s'il te regarde parce que simplement il y a une personne en plus qui rentre dans un lieu public, ou si c'est parce que toi tu sais intérieurement que tu es habillé en femme et puis que pour d'autres personnes c'est pas normal entre guillemets. Est-ce qu'il n'y a pas cette paranoïa qui s'installe quand même?
Non, alors il faut préciser que les transsexuels ont déjà une sensibilité exacerbée par rapport aux gens dits normaux. D'accord ? Donc, on détecte les choses très rapidement. Moi, simplement dans le regard d'une personne que je croise, je peux deviner un peu quel est son sentiment par rapport à moi. Mmh. Et c'est vrai qu'à Genève, j'ai croisé des quantités de personnes. La plupart des gens, ils avaient le regard normal, comme on circule dans la rue. Puis d'autres avaient le regard un peu plus appuyé. Et là, je me rendais tout de suite compte qu'ils avaient remarqué. Mais la plupart ne faisaient pas de remarques. Parfois, les jeunes étaient agressifs. Alors là, une fois, on m'a dit, il y avait un groupe de jeunes dans le tram. Ils m'ont dit, t'es une honte pour nous, les hommes.
Mmh. Oh. Mmh. Ouais, ouais. À part ça, t'as pas eu de problème par rapport justement à ce que tu viens de raconter, d'agressivité par rapport à d'autres personnes?
Oui, j'ai eu deux fois par email des gens qui m'ont dit tu brûleras en enfer. Et puis un autre qui m'a dit tu peux faire toutes les opérations que tu veux, pour moi t'es un mec, puis tu vaux rien du tout. Donc deux fois ouais. Sur des quantités de personnes qui m'ont écrit, donc c'est pas grave. Hein.
Ouais, ça va, ça peut se noyer dans le bon, voilà. dans les bons emails.
Ouais, ouais.
Moi, ce que je propose, c'est qu'on va revenir dans quelques instants parce qu'il y a une partie qu'on doit quand même aborder. C'est la partie ensuite. Là, on était au travestissement. Tu as été bien plus loin. Donc, à 60 ans, tu es devenue vraiment femme. On va en parler d'ici quelques instants puisque nous avons tout à l'heure aussi notre chronique quand les hétéros parlent d'homosexualité. On va en parler d'ici quelques instants. Mais juste avant ça, un petit peu de musique dans cette émission Chromosome X ici à Alpaguet. Voici Alessia Cara qui arrive tout de suite.
I'm sorry if I... Interested, or I'm not listening, or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here. But since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend. So you can go back, please enjoy your party. I'll be here.
C'était Alessia Cara à l'instant sur Vibration Gay Radio. Nous sommes dans cette émission Chromosomix avec Fanny. Fanny qui rencontre des hétéros qui parlent d'homosexualité, c'est juste?
Oui, c'est juste. Alors je me promène dans la rue avec mon petit micro à la main et j'arrête les gens et je leur demande quel regard ils ont sur l'homosexualité. Comment ils voient ça? Comment ils vivent ça? Et c'est assez intéressant.
Ouais.
Parce que,
nous trouve
j'ai du
des...
bon, j'ai du mauvais, mais j'ai beaucoup plus de bon que de mauvais quand même, c'est ça?
Oui, on aimerait bien que tu trouves aussi des gens qui, voilà.
Je vais me décarcasser, je te promets.
Qui puissent aussi moins comprendre. Là, c'est des gens quand même assez compréhensifs.
C'est déjà plus difficile à trouver.
Voilà.
Mais les gens veulent pas partager ça.
C'est quand même assez intéressant comme témoignage. Et c'est ce qu'on vous propose dans chaque émission. Et c'est ce qui arrive maintenant avant de retrouver Juliane Peretta tout à l'heure et de nous consacrer à nouveau, à Isabelle. Isabelle, qui est notre invitée dans cette émission Chromosomix, ça sera donc tout à l'heure.
Alors, je m'appelle Alyosha, j'ai 27 ans. Donc la première question, c'est l'homosexualité, c'est quoi pour toi? Alors pour moi, l'homosexualité, je dois dire que j'ai une définition qui est plutôt terre à terre. C'est une sexualité qui est vécue entre deux personnes du même sexe. Et bon, après, je suis bien consciente que ça engage plein de choses au niveau sentiment. Et voilà. As-tu des amis ou des connaissances homosexuelles? Oui, j'en ai. Des amis proches. Et voilà. La question 3. Un couple homosexuel qui se tient la main dans la rue, ça t'inspire quoi? Je dirais que ça m'inspire la même chose qu'un couple hétérosexuel. Je me dis deux personnes qui peuvent s'aimer et qui peuvent se tenir la main dans la rue. Et ben moi, je trouve ça magnifique. C'est quelque chose que je trouve très beau. Et puis, que j'aimerais bien revivre une fois. Voilà. L'homophobie, qu'en penses-tu? Je pense que c'est un peu comme toutes les phobies. Si les gens qui étaient homophobes prenaient le temps de se soigner et puis de comprendre pourquoi ils ont les phobies, le monde irait peut-être mieux. C'est une peur de ce qui est pas connu pour moi, n'importe quelle phobie. Et voilà, je pense clairement que si les gens prenaient un peu plus de temps pour regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, pour comprendre pourquoi ils ont des problèmes avec les autres... Eh ben, on pourrait se soigner et puis on pourrait avancer un peu plus, voilà, dans la vie. Et si tu devais te retrouver dans une soirée gay, tu ferais quoi? Eh ben, je ferais comme dans toutes les autres soirées, je danserais et puis je m'amuserais avec moi-même parce que j'aime beaucoup m'amuser avec moi. Donc voilà, je pense que s'il y a de l'ambiance, eh ben voilà, on s'éclate et puis on rencontre des gens, on fait des belles rencontres. Et on vit des jolis moments, donc que la soirée elle soit gay ou pas, pour moi l'important c'est de s'amuser. Et voilà, des belles personnes, il y en a partout.
Chromosome X. Chromosome X, la nouvelle émission LGBT sur Vibration Gay Radio.
When the leaves turn brown, I watch them burn. Across the sun and above the clouds, the sirens clear. I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I save you. A miracle that was meant for two. I save you, you save me. A miracle with every beat of my heart.
Oh, 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 oh with every beat of my heart. Oh yeah, oh, oh, oh yeah. Oh, oh, oh yeah. Oh, oh, oh yeah. Beat of my heart. Oh, oh, oh yeah. Oh, oh, oh yeah. Oh, oh, oh yeah. Beat of my heart.
Vibration Gay Radio avec Julian Peretta à l'instant, c'était Miracle. J'espère que vous passez eh bien, une belle soirée avec nous dans cette émission Chromosome X, alors que nous parlons transsexualité ou transidentité peut-être. Parfois c'est quand même un peu mieux ce terme, hein, transidentité. Je crois que je le préfère quand même de plus en plus quand j'ai pu voir un petit peu sur Internet.
C'est plus clair.
C'est
vrai qu'on apprend pas mal de choses avec ton voilà. témoignage, Isabelle.
Ouais, exactement, un témoignage qui nous apporte beaucoup dans cette émission, ça nous fait bien plaisir. Isabelle, on va revenir un petit peu ben, justement sur ton parcours, puisque là nous avons fait donc la partie travestissement. On va donc ça m'arrive maintenant, on a essayé de l'appeler mais il nous a pas entendu. On va passer à la partie où tu as pris cette décision finalement de faire la transformation, d'effectuer cette transformation carrément donc au niveau de ton corps.
Oui, alors le moment de cette décision, c'était comme un flash. Donc ça faisait déjà quelques semaines que je me renseignais sur les différents sites, et j'avais toujours ces pulsions suicidaires qui me pourrissaient la vie.
Mmh.
Et pour mon fils, j'avais énormément de craintes, parce que ce fils adoptif, on l'a eu pratiquement à sa naissance, et je me suis beaucoup occupé de lui, donc j'avais énormément d'affection à lui donner, je me suis beaucoup occupé, et j'avais beaucoup de soucis pour lui.
Pour son futur, voilà, avec
oui,
vis-à-vis de son père.
Voilà, c'est un père qui devient une femme ou tout ça. Et tout d'un coup, le flash, j'ai réalisé, pour ton fils, il vaut mieux que tu deviennes une femme plutôt qu'il ait un père suicidé.
Mm-hmm.
Et j'ai pris ma décision à cet instant précis, et instantanément, les pulsions suicidaires ont disparu.
Ok.
Instantanément, terminé.
Ouais, alors c'est une transformation qui a duré sur 6 ans, sauf erreur, depuis 2006.
Alors, 2006, c'est ma décision.
Et là, c'est un long parcours, hein. Ça commence.
Ouais, c'est un
au moment où on prend la décision, c'est pas, enfin voilà.
C'est pas tchac tchac, mm-hmm. Au revoir, merci.
Oui.
Il y a un long parcours. C'est comme si on commence une, un chemin de croix, quoi.
C'était... Ouais, absolument.
Ouais.
Mais comme on est dans un autre monde.
Ouais.
Donc on se rend pas compte de tout ce qu'on fait. Hein,
mm-hmm.
Et tous les aspects négatifs de ce parcours.
C'est après en regardant en arrière en disant oh là là j'ai fait tout ça.
Ouais, on éclate de rire.
Ouais, alors, c'est mieux, ouais.
Alors bon, quand j'ai pris ma décision, je m'amusais déjà à m'épiler les sourcils. Hein. J'avais les sourcils assez broussailleux. J'avais le crâne rasé, évidemment, fallait faire macho. Hein. Alors. Bon, les sourcils, on commençait déjà à remarquer un petit peu qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'ai pris ma décision, dit bon, ben, je vais annoncer déjà ça à ma femme. Je vais lui dire voilà, Isabelle est revenue, alors je vais aller jusqu'à la transformation.
Ok.
Ça, c'était la première étape.
Et ensuite, comment elle a pris alors, comment ta femme a accepté ça?
Alors, elle l'a très mal pris. Et là, j'étais hyper surprise parce que, avec mon épouse, On a passé 38 ans ensemble. Et à ce moment-là, il y avait une vingtaine d'années qu'on faisait chambre séparée et qu'on n'avait plus de rapport. Mais il y avait une grande affection. Alors je me suis dit, ben, elle ne perdra pas grand-chose. De toute façon, on n'a pas de relation sexuelle. Et puis on s'aime bien, et puis tout va bien. Oh là là, non, le regard des autres.
Ah ouais.
Elle ne supportait pas. Elle m'a dit, tu peux te travestir au bureau, mais je ne veux pas que tu sortes en nana en ville. Non, ça a été dur. Hein. Et c'est mon fils, il avait 7 ans à ce moment-là, et je lui ai expliqué avec des mots adaptés à un enfant de son âge. Quel est le souci d'un enfant de 7 ans? C'est est-ce que papa m'aimera toujours? Est-ce que papa fera encore du vélo avec moi? Il me disait, mais avec tes talons, tu peux pas faire du vélo. j'ai dit, bah, écoute, d'abord, on peut faire du vélo avec des chaussures à talons. Et ensuite, quand je viens faire du vélo avec toi, bah, je mets des baskets. Hein. Alors, il était rassuré. Mmh. Donc, ça s'est bien passé. Et c'est lui qui a compris. Je lui ai dit, tu vois, papa, il aurait dû naître fille, il est trop malheureux, eh bien, il doit changer, il va changer. Alors, ça va changer un peu ta vie et tout. C'est lui qui allait consoler ma femme. Mmh. Il a dit, mais maman, tu dois comprendre, papa, il est trop malheureux, tu dois accepter qu'il change.
Ah, c'est adorable.
C'est
tellement simple, en fait, ouais. Pour les enfants. C'est...
Pour les ouais. enfants, tout est beaucoup plus oui. clair. Quoi.
Ouais. Ouais. Ah, clairement.
Mais je pense que c'est utile de préciser ici qu'une transformation et de l'annoncer à un adolescent, là, c'est un peu plus compliqué.
Ouais.
Donc, il y a beaucoup de transsexuels qui attendent que les ados soient devenus un peu plus grands, adultes, pour annoncer une intention de se transformer. Parce qu'on peut gravement perturber l'évolution d'un enfant, parce qu'un ado, il se cherche.
Il se construit à ce moment-là, il se cherche.
Peut-être qu'un ado aussi il se réfère beaucoup à ses parents pour, comme socle de base.
Plus tard, ouais.
Et une transformation comme ça, enfin, depuis le début de ton témoignage, moi j'ai toujours l'impression que c'est comme si c'était, quand tu parles de pulsions suicidaires, de moments de transformation, de passer d'un moment où tu es toi-même à un moment où tu portes un masque, où tu es dans ce personnage, c'est quelque chose qu'on vit perpétuellement à l'adolescence. Tous les adolescents vivent ça. Peu importe quel est le masque qu'ils portent et qui ils sont quand ils l'enlèvent. Et du coup, pour un adolescent, je pense que de voir ses parents tout d'un coup rentrer dans ce schéma-là, alors que c'est leur seul point d'accroche en se disant, ok, alors ces gens-là sont les référents. Et puis tout d'un coup, s'il y a un des parents qui se met à agir de la même manière, peut-être qu'effectivement, ça doit perturber.
Ouais.
Ouais. Énormément, quoi.
Pour l'évolution, ouais.
Ouais.
C'est sûr. Ouais.
Et si on parle précisément de la transformation, parce que c'est pas anodin, donc il y a l'opération, il y a tout ce, même pour obtenir déjà cette possibilité de faire la transformation, parce qu'il faut rencontrer des psychologues, il y a l'administration, enfin, c'est un long parcours.
Alors, l'administration, c'est pas un problème, ça vient après.
Ouais.
Au moment où j'ai pris ma décision, alors il fallait laisser pousser les cheveux, je ne voulais pas aller voir un psy en mec, je voulais aller voir un psy en nana.
Okay.
Donc il fallait le temps quand même oui. d'avoir une coupe de cheveux qui soit un peu plus correcte. Et puis l'épilation. Alors l'épilation, je n'ai pas voulu attendre, j'ai commencé mon épilation. En tout, j'ai à peu près 300 heures d'épilation électrique. Évidemment, ça pose un très gros problème parce que l'épilation électrique, il faut que la barbe soit de quand même 1 à 2 mm. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir habillé en nana et maquillé avec une barbe ouais. qui fait 2 mm.
Ça fait moyen, ouais.
Ensuite, on va se faire épiler. Et puis, après l'épilation, on a 2 ou 3 jours de boutons, de marques, donc où on ne peut plus sortir. Donc là, il y a une frustration. Ça veut dire que pendant les 3 ans d'épilation, j'ai fait une épilation intégrale, hein, depuis les orteils jusqu'en haut. Hein.
Ok.
Et là, ça veut dire que pendant cette période, il n'y a pratiquement qu'un seul jour où on est en état de sortir en femme. Donc là, c'est un petit peu pénible. Hein. Maintenant, parlons des psys, parce que là, c'est une grosse problématique.
Ouais.
Moi, j'ai vécu 13 mois de maltraitance psychologique de la part de ces spécialistes, entre guillemets, qui n'avaient aucun respect. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a le HBIGDA, donc c'est une norme internationale, c'est un consensus entre les psychiatres du monde entier sur la problématique de la transsexualité. Et dans ce document, on trouve toutes les explications. Alors effectivement, on nous dit qu'il faudrait, je dis bien au conditionnel, il faudrait 2 ans de psychothérapie. Alors, la psychothérapie, elle est importante surtout pour des jeunes transsexuels parce qu'il faut détecter si c'est vraiment un trouble de l'identité de genre, donc un état contre lequel on ne peut rien faire, ou une autre déviation psychiatrique qu'il faut soigner. Donc, pour un jeune, c'est important. Moi, j'estimais que j'avais fait une 30aine d'années d'auto-psychanalyse et que je n'avais pas besoin de faire une longue thérapie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on nous dit aussi dans ce document que après la psychothérapie, on peut commencer un traitement hormonal. Et puis, 2 ans après, encore, on peut envisager les opérations. Ça, c'est des normes générales. Et ensuite, il y a toutes les exceptions, où ça dit très clairement que tous les patients n'ont pas besoin de la thérapie triadique, ce qu'ils appellent les 3 éléments.
Hein. Ouais.
En plus, les patients n'ont pas tous besoin de le faire dans cet ordre-là. Et que certains patients n'ont pas du tout besoin d'une thérapie. Mmh. Moi, j'étais dans ce cas-là. Mais les psys, ils voulaient rien savoir. Le premier psy, j'ai eu 9 séances. Sur les 9, plusieurs fois, je suis sorti en pleurant. Moi, blindé, à 60 ans, je sors en pleurant de chez un psy. Non, mais vous imaginez comment, dans quel état sortirait une jeune transsexuelle de 20-25 ans ? C'est grave. Ouais. C'est inadmissible. À la fin, je leur disais, écoutez, donnez-moi au moins les anti-androgènes. Donc, c'est la première partie du traitement. C'est pour combattre cette masculinité. Je ne supportais plus d'avoir des érections. Je vous laisse premier traitement. Et ça, c'est réversible. Si au bout de 6 mois, on s'aperçoit qu'on a fait fausse route, on arrête et puis tout commence. D'accord ? Ils ne voulaient pas.
Et même ça, c'était pas possible.
Même ça, ils ne voulaient pas.
Ok.
Alors, au bout du compte, comme j'insistais, puis que j'avais tous les arguments de ce fameux rapport international, le médecin m'a dit, écoutez, on arrête le suivi. Alors, je dis, écoutez, au moins, donnez-moi l'adresse d'autres psychiatres, parce que je suis obligé de passer par un psychiatre pour avoir l'accès au traitement hormonal. L'endocrinologue ne s'aventure pas, ne prend pas la responsabilité. Donc, ils m'ont donné 4 ou 5 noms. Là-dessus, il y a plus de la moitié, ils ne suivaient plus les transsexuels. Donc, ils m'ont donné des noms bidons. Mmh. Et puis, le principal, celui chez qui j'ai atterri, c'est un psychiatre qui était chef de clinique aussi au HUG, qui avait accompagné un certain nombre de transsexuels envers la transformation, et qui, tout d'un coup, avait changé complètement son fusil d'épaule, et avec la collaboration d'un psychiatre canadien, il disait, non, on ne va plus vers la transformation, on va vers une revitalisation de la masculinité au moyen d'une thérapie et du Viagra.
Non voilà. Mais ça va, non. Bien.
Hein?
Ok.
Alors je lui ai dit, mais écoutez, moi, depuis que j'ai pris ma décision de transformer, j'ai plus de pulsions suicidaires. Est-ce que vous voulez me les faire revenir? C'est plus possible. Alors, évidemment qu'il n'était pas d'accord avec mon principe. Mais au moins, il m'a dit, écoutez, alors on fait une analyse sexologique. Ça veut dire que pendant 5 ou 6 semaines, les séances hebdomadaires, c'était pour tout expliquer, comment je me masturbais, comment... Tout. Il voulait tous les détails. Il a tout compris. Et puis finalement, il a abouti sur un rapport d'une douzaine de pages où il explique toute ma situation et il conclut au diagnostic que... Je suis une transsexuelle secondaire, mais une transsexuelle vraie, transsexuelle secondaire. Si vous voulez, je pourrais expliquer le détail de ces deux mots. Mais le problème, c'est que le diagnostic était bien posé. Par contre, il n'était plus d'accord sur le suivi. Il ne voulait pas aller vers la transformation, mais vers une revitalisation de la masculinité.
Malgré ce rapport...
Malgré le diagnostic clairement posé.
Ok.
Alors, finalement, ça a été les grandes difficultés avec l'endocrinologue, parce que je commençais sérieusement à déprimer, parce que l'endocrinologue n'osait pas prendre la responsabilité. Alors, finalement, quand l'endocrinologue a constaté que je commençais à pleurer au téléphone, que je ne savais plus où j'en étais, j'avais envie de me couper les testicules. Mm-hmm. Donc, ça allait loin. Et elle a accepté de me donner le premier traitement. Elle m'a dit, on fait le test... Et puis, on verra dans quelques mois l'évolution. Mais en espace d'une semaine, 10 jours, je me sentais déjà mieux de ne plus être perturbé par cet aspect masculin, qu'elle a tout de suite vu que c'était positif. Et au mois de juillet, donc, j'ai commencé ce traitement. Et puis, au mois d'octobre, elle m'a donné les hormones féminisantes. Et là, waouh, c'était... Je me sentais bien, donc elle a tout de suite vu que c'était positif et puis qu'elle
a pris la responsabilité toute seule en fait.
Elle a finalement pris la responsabilité uniquement sur la base du diagnostic.
Ok. Et ensuite, je pense que le chemin est encore long pour la suite. Donc là, on n'est que au début finalement encore. Il y a toute la partie chirurgie. Là, ça se passe pas très bien au tout début aussi.
Alors oui, j'ai fait une chirurgie esthétique au Maroc pour essayer de féminiser mon visage. Et puis le chirurgien était sympa, mais il n'osait pas aller trop loin parce qu'il n'avait pas l'habitude de faire une féminisation de visage sur une transsexuelle. Alors il voulait non plus pas trop prendre de risques. Alors c'était insuffisant. Alors j'ai fait une deuxième opération à Genève pour corriger ce qui m'avait trop laissé en arrière. Puis finalement, ça s'est bien passé. Et puis pour mon opération principale, pour la vaginoplastie, je m'étais inscrite en Thaïlande. C'est là qu'il y a un grand spécialiste, il fait que ça.
Ok.
Alors, j'avais fixé la date de l'opération pour le jour de mon anniversaire. Pour moi, c'était vraiment très important.
C'est symbolique en plus.
Ouais, la renaissance. Ouais. Alors j'ai eu quelques frayeurs parce que 3 mois avant, j'ai fait une petite abdominoplastie et puis pendant l'opération, j'ai fait une thrombose veineuse.
Mm-hmm.
Et
c'est pas bon ça.
Ça, c'est pas bon du tout. Donc pendant 3 mois, j'ai été traité au Sintron, donc c'est un médicament spécialement pour ça. Et j'avais des craintes qu'on me repousse l'opération fixée le 18 août. Et finalement, ça a quand même passé. Mais pendant l'opération, donc la vaginoplastie a duré un peu plus longtemps parce que tous les quarts d'heure, 20 minutes, ils me refaisaient un massage des jambes. Et puis après, ils m'ont mis des jambières massantes là, pendant tout le séjour à l'hôpital.
Éviter les thromboses, donc. Hein.
Pour prévenir les thromboses. Hein. Alors évidemment, l'opération, là, elle a duré 7h30 à peu près, 7h30 sur le billard, alors que normalement, ça devrait être 6h, 5-6h.
Oui, il n'était peut-être pas très rapide, ton chirurgien.
Ouais. Attention, elle est dans le médical, Fanny, c'est pour ça.
Dans la chirurgie même.
La chirurgie, oui, d'accord. Oui. Et puis, c'est vrai qu'après, c'est aussi c'est pas mal de concessions parce qu'il faut rester vraiment couché, faut pas trop bouger après cette opération pendant pas mal de jours quand même.
Oui, alors j'ai passé la première semaine donc à l'hôpital de Bangkok, qui est d'ailleurs un hôpital absolument magnifique, hein, d'un très très haut niveau. Et puis après, il y avait trois semaines de suivi post-opératoire à l'hôtel. Alors là, c'était déprimant parce qu'à Bangkok, ils ont des soucis d'électricité. Donc, j'avais une chambre absolument magnifique, hein, immense.
Sans électricité.
Avec de l'électricité, mais les ampoules à 25 watts. Hein.
Ok, bah, c'est un peu comme au local, en fait. C'est crazy quand on allume les chauffages.
C'est un peu le local d'Alpaguer.
C'est le local d'Alpaguer. Voilà, ouais.
Et puis, les murs tapissés, foncés. Donc, et puis,
très sombre.
Très, très sombre. Et puis évidemment, moi je ne voulais pas mélanger avec du tourisme, hein. J'avais tout misé sur le repos. Je suis sorti en ville une seule fois la dernière semaine pour faire 2-3 courses, mais autrement je restais tranquille. Mais évidemment, après une semaine à l'hôtel, j'ai fait ma belle déprime qui a duré 2 jours. J'arrêtais pas de pleurer. Alors bon, c'est la déprime post-opératoire aussi. Je prenais la douche, sous la douche, je me mettais à pleurer. Je me suis dit, en une pipe, alors...
Mais pour toi, ça devait être drôle aussi, parce que finalement, c'était ton corps qui changeait, et puis tu remarquais ça aussi sous la douche. Est-ce que tu avais l'impression que c'était toi, enfin, que tu touchais pas le corps de quelqu'un d'autre
Ah, non, j'avais l'impression d'être...
D'être vraiment
enfin,
toi, cette
enfin
fois.
Toi.
Ouais, enfin toi. Enfin toi. Ouais. Et jamais j'ai regretté d'avoir perdu mon sexe masculin. Pour moi, c'était une libération.
Ouais.
Mais il n'y a pas quand même un moment, un passage juste à ce moment-là où tu t'endors, tu as un sexe masculin, tu te réveilles, tu as un sexe féminin. Mm-hmm. Ça ne fait pas bizarre, c'est quand même un changement qui s'est fait après
c'est radical, quoi,
plein d'années de ta vie. Je veux dire, c'est... Que tu le veuilles
ans,
ou non,
60
ça...
Ans, ça fait...
Voilà, 60 ans, et puis que tu le veuilles ou non, bah, c'était là. Et puis tout d'un coup, plus.
Mm-hmm. Le premier souci, quand on se réveille après l'opération, c'est de mettre la main.
Mm-hmm. Est-ce qu'ils m'ont bien fait ce que je voulais?
Et puis de sentir les pansements, puis tu dis voilà, c'est fait. C'est fait. Ouais, ouais, génial. Hein,
ouais. Une libération donc pour toi.
Voilà. Ah oui, alors, ouais. Oui, tout à fait.
C'est vraiment ça, c'est vraiment cette. Et c'est ce que tu ressens aussi, je pense, aussi maintenant, enfin depuis cette opération. Être femme, la libération, quoi.
Absolument, oui. Et je dois dire que je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier de mon corps, malgré mon âge. Je dois dire, j'aime me montrer. J'aime témoigner, j'aime expliquer les choses. Parce que je me dis, mais voilà, maintenant, je suis une femme. C'est moi.
Et tu te définis même plutôt comme une femme d'origine transsexuelle.
Oui, je définis plus comme transsexuelle.
Voilà.
Parce que pour moi, comme tu as dit tout à l'heure, trans, c'est en transformation.
Voilà.
Oui. À partir du moment où c'est terminé, on ne devrait plus s'appeler transsexuel.
Ouais.
Donc, je me définis toujours comme femme d'origine transsexuelle.
Bah, j'ai trouvé ça très joli. Je vois, d'origine transsexuelle, je trouvais ça vraiment une bonne formulation, enfin une formulation qui était assez.
Moi, le femme me suffit.
Oui, moi aussi.
Tout à fait.
Ouais. Surtout absolument. Quand on te voit, on voit que t'es une femme et que t'es bien.
Avec le sourire. On va revenir d'ici quelques instants justement sur le sujet, puisque dans cette émission Chromosomique, c'est une spéciale transsexualité, et ce sera notamment l'occasion de parler un petit peu de ta relation homme-femme aussi, du regard des autres, et puis de la communauté LGBT, parce que bien sûr, eh bien, il faut aussi évoquer le sujet, parce que c'est, on pense que c'est plus simple dans la communauté LGBT, ce qui n'est pas toujours le cas non plus hein, au niveau du regard. On va donc en parler aussi un petit peu plus tard, et aussi sur ton parcours, parce que ton parcours, on peut, si ça intéresse donc les personnes qui entendent cette émission, eh bien tout ce qu'on vient d'évoquer, eh bien on peut le consulter sur ton site internet qui s'appelle isadem.com, et sur lequel tu as aussi écrit un livre. C'était aussi important pour toi de pouvoir écrire tout ton parcours vraiment sur papier, et c'est donc un livre qui est disponible en freeware, et il s'appelle La femme et l'avenir de l'homme. Et ça, tu l'as écrit depuis le... T'as commencé quand à...
J'ai dû commencer en 2007-2008 par là autour.
D'accord, c'était en pleine période d'un peu de... dans la transformation, oui, ça veut dire après la décision. Ok. Oui. D'accord.
Bon, il faudrait que je change encore quelque chose à la fin, parce que ça fait 3 ans que je l'ai terminé, et ces 3 dernières années, j'ai aussi évolué un petit peu, donc il y a 2-3 choses à la fin, surtout dans mes rapports avec les hommes et avec les femmes, on va en discuter tout à l'heure.
Exactement.
Il faut peut-être en faire un deuxième.
Voilà, il faut faire des tomes. Il faut faire des tomes, exactement.
Oui, oui.
Et ben, on va parler de tout ça d'ici quelques instants, et puis juste avant, on aura aussi l'occasion de faire un petit tour sur l'agenda d'Alpaguet, et puis bien sûr, Paul, on va se poser la question si on est bien queer.
Maintenant ?
Non.
J'ai eu peur.
Après.
Ah, après.
Maintenant, c'est la pause.
T'as encore un petit peu de temps.
On va se poser la question, oui. Êtes-vous queer ?
Exactement. Avec Queen Mimosa.
Avec Queen Mimosa.
Ça arrive juste après Brice Conrad et 21 Pilots tout à l'heure dans cette émission Chromosomix.
Elle m'a souri quand le jour m'a déposé contre son autre. Quand elle me dit s'il te plaît laisse-toi aller, on ne vivra plus jamais l'un sans l'autre, l'un sans l'autre. Et je me perds, je la laisse faire. Et je sais quand elle me serre contre elle. Défile, je reviens la démasquer. Elle se retient d'essayer. Côte à côte comme les autres, loin des sourires, loin de nos rêves éveillés. Elle fuit la réalité comme les autres. Et je me perds, je la laisse faire. Et je sais quand elle me...